Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
Yes, salut les amis, hello, comme on dit du côté d'Oxford et de Cambridge, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du débrief 100% hack. Et oui, le foot de retour sur Tendance Ouest, podcast en partenariat avec Foot Normand et le Courrier Cauchois, deux fois par mois. On débriefera ensemble les performances passées et à venir de nos ciels et marines. Et à mes côtés, pour vous servir, Mathieu Billot de Foot Normand, bonjour.
Bonjour Célia, bonjour à tous.
Et Luc Gallet du Courrier Cauchois, c'est vous qui vous y collez aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Et il nous fait l'honneur d'être avec nous pour cette première présidente, Jean-Michel Roussier, bienvenue à ce micro, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va parler du hack, évidemment, version Didier Digard. Quel bilan, un mois tout pile après le coup d'envoi du championnat. Un hack qui doit aussi jongler avec les finances pour composer son effectif. Il y a parfois peut-être un peu trop de monde sur le banc, sans doute. On vous posera la question. Et puis, c'est l'actu nationale du moment, la gouvernance de la Ligue de foot professionnelle, des droits TV et le feuilleton CVC. Voilà pour le sommaire. C'est parti pour le débrief 100% hack numéro 1. Le hack qui visait la passe de 3 ce week-end à Toulouse, il n'en a finalement rien été. Défaite 2-0, Didier Digard parle d'un non-match. Quand on passe tellement à côté, on ne peut que rebondir, dit le coach Havrais. Et Gauthier Lioris, le défenseur, n'est pas loin de penser la même chose. On l'écoute.
Beaucoup de déception, frustration, on n'a pas été bon dans pas mal de compartiments de jeu. Mais bon, faut analyser ce match et de toute façon je pense qu'on pourra pas faire pire que ce match-là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour le week-end prochain, on pourra faire mieux. Il va falloir bien travailler et préparer ce match à Monaco.
Jean-Michel Roussier, une réaction d'abord face à ce revers, face peut-être un... Est-ce qu'on peut parler d'un potentiel concurrent dans les mois à venir? On ne sait pas encore, mais...
Oui, enfin, bon, et Didier et Gauthier ont raison sur leur conclusion. Moi, ça m'a étrangement ramené un an en arrière... Notre match à Clermont, qui a été un absolu non-match, qu'on a perdu également. Voilà, peut-être c'est le propre des équipes jeunes, parce qu'on est une équipe jeune, qui peut par moments s'emballer, s'imaginer être assez nettement au-dessus des adversaires dont les noms sont un peu moins ronflants. Je pense que c'est ce qui a pu se passer effectivement à Toulouse, et espérons que ça ne va pas vraiment se reproduire trop souvent.
Il y a eu un coup de chaud ?
Oui, il y a eu, encore une fois, des manques, de gros manques collectifs, mais je reprends les termes de Didier, il y a tellement rien à dire, tellement il n'y a rien eu. Quoi. Voilà, donc rendez-vous à Monaco ce week-end.
Avec 2-3 quand même circonstances atténuantes, si on peut le dire comme ça, dans la compo d'équipe, où Oussama Targaline qui était malade, donc qui n'était pas aligné. Il y avait aussi Loïc Nego et Abdoulaye Touré qui sont des titulaires, je vais qualifier indiscutables, qui ne jouaient pas. Ils revenaient c'était la première fenêtre internationale de la saison. Donc ils avaient été un peu, moi de mon point de vue quand même, même si forcément une équipe c'est pas seulement 11 joueurs, moi je trouve qu'il y a un hack quand même avec Oussama et sans Oussama. Et Abdoulaye et Loïc sur le début de saison sont des pions quand même essentiels du collectif de Didier Digard.
Mais il n'y a aucun doute là-dessus, mais bon... Oussama malade, malheureusement, ça, personne n'y est pour rien. Ce que je constate, c'est que finalement, celui qui a remplacé Oussama, et j'imagine que dans l'esprit de Didier, c'était Dallaire, c'est finalement Dallaire qui a tiré un peu son épingle du jeu par rapport aux 10 autres. Donc oui, c'est clair que l'équipe n'est pas obligatoirement la même selon qu'Oussama joue, selon qu'Abdoulaye joue... Mais encore une fois, la saison, c'est 34 matchs et ce n'est pas les 11 mêmes joueurs qui vont faire les 34 matchs. Donc, il y a eu un déficit collectif conséquent. Voilà, je dirais conséquent.
Est-ce qu'il y a eu aussi, j'allais dire non pas une faillite, mais en tout cas une absence de poids sur le secteur offensif quand on voit les prestations de Soumaré, de Sabi, alors même s'il a eu une belle occasion en première période, mais voilà, on sent qu'offensivement, ça a été compliqué aussi sur ce match.
Pas encore d'attaquant buteur cette saison.
Ouais, mais il n'y en aura pas. C'est-à-dire, je lis toutes les semaines et je relis toutes les semaines. Et le fait qu'il n'y ait pas les attaquants... Bon, il y a des attaquants, on a des attaquants, l'occasion d'Emmanuel Sabi se la crée tout seul comme un vrai attaquant. Il n'y enfin, a rien à redire, le gardien la sort. Après, que ce soit Sabi, que ce soit sous-marins, ou que ce soit les milieux de terrain quand ils se sont projetés, ça a été le cas avec Dallaire, parce que finalement l'occasion la plus belle, c'est un milieu de terrain qui se la crée. Donc voilà, l'année dernière, vous savez, on nous a beaucoup au début de saison dit il faut un attaquant, et puis on a réussi le dernier jour à conclure un accord avec Lille pour le prêt de Mohamed Bayo. Il a eu une saison difficile, Mohamed Bayo, et avec le public, et avec ses résultats personnels. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a aucune garantie. La preuve, cette année, il est titulaire avec Bruno Genesio à Lille. Donc, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de certitude. Les attaquants, on en a. Est-ce qu'ils sont suffisants pour la Ligue 1? Ça, on fera le point la 34e journée. On a tous la conviction qu'ils le sont. Et que l'équipe est très équilibrée, mais c'est des jeunes joueurs, donc il faut leur laisser le temps de se développer pour performer.
Alors, on parlait de non-match, Mathieu, cela dit, le début de saison, ce premier mois de compétition, il est peut-être plutôt satisfaisant pour le HAC. Hein.
Moi, je dirais même qu'il est totalement satisfaisant. Je vais poser la question à M. Roussier, mais 6 points sur 12, 2 victoires, contre, sur le papier, 2 potentiels concurrents directs dans votre championnat, envie de dire. Ouais. Et puis, moi, surtout, ce que j'ai trouvé plaisant, c'est qu'une qualité de jeu que j'ai trouvé très agréable à suivre. Alors, vous me direz, on peut jouer aussi un peu dégueulasse et gagner 1-0, ça fait quand même 3 points. Mais je trouve déjà que, il y a une petite patte aussi d'Idiga. Enfin, j'ai trouvé vraiment...
Il y a une vraie patte, ouais. Enfin, je pense que le gros recrutement... Ce qui n'enlève rien, par ailleurs, au travail qu'avait fait Lucas les 2 saisons passées. Hein, mais la patte de Didier, elle se voit. Alors, à Toulouse, effectivement, mais pas du tout de son fait, du fait d'une totale absence collective, je dirais. Mais quand on reprend les 3 premiers matchs, y compris le match à la maison, le premier contre le Paris Saint-Germain, où on a été tous sauf ridicule, quoi. Voilà, donc... il y a une patte, il y a une façon de jouer plaisante, un schéma de jeu assez clair, assez précis, qui effectivement, encore une fois, pour rebondir sur ce soi-disant déficit d'attaquants, le schéma de jeu que propose l'équipe et que veut instaurer Didier permet effectivement de s'appuyer sur des attaquants jeunes qui n'ont pas l'expérience dans d'autres clubs, mais qui doivent largement faire le job pour la saison.
Est-ce que vous sentez que justement les joueurs ont déjà bien intégré, on va dire, les principes de jeu du nouvel entraîneur, qui est Didier Deschamps?
Écoutez, si je fais référence aux 3 premiers matchs, j'ai pas de doute là-dessus. Il y a une longue préparation cet été. Didier est arrivé avant le début de la reprise, donc encore une fois, je veux vraiment volontairement faire abstraction du match de dimanche, parce que c'est un non-sens ce match, un non-match et un non-sens même. Mais oui, si clairement sur les 3 premiers matchs, je pense qu'il y a... ils l'ont parfaitement intégré, bien sûr.
Est-ce que vous attendiez à ce que la greffe prenne aussi vite? Parce qu'on le disait, prédécesseur, Lucas Hesner, 2 saisons en termes de résultats en tout point irréprochables, montée plus maintien, ce qui n'était pas arrivé depuis... c'est un championnat depuis 25 ans au Havre, donc c'est quand même assez exceptionnel. On change de coach, ce qui n'est pas vraiment de votre fait, vu que c'est plutôt Lucas Hesner qui a demandé à partir. Ouais. Vous arrivez à le remplacer et la greffe prend tout de suite. C'est presque un scénario un peu rêvé.
Oui, mais bon, c'est, sur la réalité des faits, oui, c'est pas de notre fait que Lucas s'en aille. Mais on l'avait anticipé, que cette éventualité pouvait exister. Ça, c'est le point 1 de ce qu'on avait anticipé. On avait anticipé une deuxième chose, c'est que les droits télé allaient être catastrophiques, et donc nos moyens allaient être catastrophiques. Et donc il faudrait faire avec des joueurs issus du centre, ou des joueurs qu'on pouvait récupérer en libre ou en prêt, et donc plutôt par définition des jeunes joueurs.
On va peut-être les rappeler d'ailleurs, ces jeunes joueurs qui sont arrivés.
Oui, il y en a pas mal. C'est que des jeunes qui sont arrivés. Hein.
5 recrues, Yanis Zouaoui, Timothée Pembele, Ismaël Bouneb, Ilyes Ousni et Ruben Lonja. Voilà les 5 recrues qui sont effectivement jeunes. Ça fait partie de ces caractéristiques.
Ce ne sont que des jeunes joueurs, auxquels s'ajoutent ceux qui sont chez nous issus du centre.
Signature des premiers contrats pro.
Darren,
Guy Noël.
Guy Noël, voilà, donc c'est 5 plus les 2 dont je parle, ça fait 7. On ne peut pas dire que Steven Goura soit un joueur très âgé. Donc, fort de ces deux éléments, à la fois les moyens dont on disposerait et le fait que Lucas pouvait éventuellement souhaiter partir, notre choix s'est porté vers Didier parce qu'il n'y avait aucun doute qu'il avait, lui, la capacité de s'appuyer sur ces jeunes et de les faire progresser. Pas simplement de les faire progresser en se disant bah, on va peut-être pas rester en Ligue 1, on verra ce que... Non, c'était les faire progresser avec des résultats, les faire progresser dès maintenant. Donc c'est dans ce cadre-là que le choix de Didier s'est imposé.
Ouais. Et ce qui est aussi, marquant dans la communication de Didier Digard, c'est que jamais il y a eu une remarque sur le fait qu'il n'ait pas de moyens pour recruter ou que ça ne lui convient pas. On sent, alors c'était déjà vrai, je pense avec Lucas Eisner sur la ligne de conduite, mais on sent au HAC depuis que cette équipe dirigeante est arrivée, dont vous faites partie en tant que président, et Mathieu Bonnemer comme directeur sportif, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde et on sent vraiment un fil conducteur qui vous anime.
Parce qu'on ne triche pas, je veux dire, quand les premières conversations qu'on a eues avec Didier, les choses étaient claires, transparentes. Moi, je n'avais aucun doute que notre atterrissage sur les recettes télé allait être catastrophique. Donc, ça ne servait à rien que de l'enfumer, de lui faire miroiter, que c'était... Donc voilà, les conversations là-dessus, elles ont été tout de suite transparentes et on se dit les choses comme elles sont, quoi, comme elles doivent l'être. Donc il n'y a pas de surprise.
Ça ressemble à une belle prise quand même, Didier Digard, avec un petit peu de recul, parce qu'il faisait référence qu'il avait eu des contacts la saison dernière pour prendre des équipes en cours de saison.
Ouais. Enfin, non, je pense que j'ai aucun doute que c'est notre vrai recrutement de la saison. Il n'y a aucun doute.
Et avec en plus cette patte un petit peu voilà, où il est capable de diriger des jeunes joueurs, voilà, avec un aspect un peu formateur aussi. C'est ça aussi le choix de Didier Deschamps, avoir ce profil-là de technicien capable de s'adapter aux jeunes.
De responsabiliser l'ensemble des joueurs qui sont dans l'effectif. Que tout le monde prend ses responsabilités, les jeunes comme les un peu moins jeunes ou un peu plus expérimentés. Mais c'est les responsabiliser.
On parlait du mercato à l'instant. Est-ce que les objectifs que vous étiez fixés pour ce mercato ont pu être atteints?
Les objectifs d'arrivée ou de départ? Les objectifs de départ, non, clairement.
Les objectifs financiers aussi?
Non, pas du tout. Les objectifs financiers n'ont pas été atteints. Dans un contexte d'un marché extrêmement compliqué, on a eu des offres irrecevables. On n'allait pas... complètement vendanger la valeur de notre effectif en acceptant certaines offres. Donc, à la fin de la fin, une fois que tout s'est bouclé, c'est-à-dire en fait tout s'est bouclé le 13 septembre avec la fermeture du marché turc, on peut dire aujourd'hui que le mercato est assez nettement en deçà de ce qu'on espérait. Maintenant, la saison n'est pas finie, il restera le mois de janvier, le début du mois de juin, donc on verra à ce moment-là, mais... Non, on est en deçà. Sur les arrivées, il n'y a pas de surprise. On avait rayé les éventualités d'acquisition onéreuse. Donc, il ne peut pas y avoir de surprise. On ne trouve pas les joueurs libres. On l'a fait une fois, quand on est arrivé la première saison en Ligue 2, avec des arrivées qui se sont avérées des coups extrêmement gagnants avec Gauthier Lloris, avec Arthur Desmas, pour ne citer qu'eux, mais il y en a eu d'autres. Hein. On ne peut pas les multiplier à chaque fois. Enfin, dernier point, on était sous encadrement de la masse salariale. Mmh. On l'est toujours, d'ailleurs. On a baissé la masse salariale par rapport à la valeur de notre encadrement, donc là-dessus, on est très tranquille.
Mmh. On rappelle juste que c'est... Vous m'interrompez ici si je raconte des bêtises, mais du coup, l'objectif, c'était de baisser d'environ 30% la masse salariale, ça, le montant de la masse salariale.
Non, ça aurait été c'était un objectif rêvé. On ne les a pas atteints, les 30%, mais on a baissé très sensiblement.
Très sensiblement. Ouais. Et il fallait aussi dégager un petit peu, on va dire, d'argent sur les transferts.
Il aurait fallu qu'on en
environ
rentre.
une quinzaine de millions d'euros.
Ouais.
Là, les transferts, vous avez quand même réalisé deux transferts de ventes payantes, j'ai envie de dire. Ouais. Avec Antoine Joujou et Yoni Gomis.
Inattendu d'ailleurs, ce n'était pas obligatoirement celle qu'on imaginait au début.
Ouais. C'est aussi les particularités du mercato et des derniers jours du mercato. Oui. Il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas imaginer.
Oui, enfin, s'agissant d'Antoine, il y avait eu des discussions antérieures. Yanis est venu plutôt sur la fin du mercato.
Est-ce que, alors, on comprend, mais est-ce que la vente de Yoni Gomis, il y a une pointe de regret parce qu'il n'a pas joué de match professionnel avec son club formateur, mais on comprend aussi qu'il y a l'obligation de vendre quand les offres se proposent.
Pour être très clair, si les ventes qu'on souhaitait réaliser, qu'on imaginait être en mesure de réaliser, avaient pu s'effectuer, jamais Yanni serait parti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quoi. Il part par défaut. Il part par défaut parce que ceux que l'on imaginait, pas qu'on souhaitait, mais ceux qu'on imaginait être susceptibles de partir, ne sont pas partis.
Et encore faut-il qu'ils veuillent bien partir. On pense au cas d'Étienne Nioutet. On rappelle que...
C'est assez simple, un transfert. Ouais. Il y a trois parties. Hein. Il faut que tout le monde soit d'accord.
On va y revenir. On va écouter Didier Digard par rapport à Étienne Nioutet, défenseur central, hein, qui est éloigné des terrains après avoir refusé une offre du club allemand d'Offenheim cet été. Et avant le déplacement au TFC, Didier Digard est revenu hein, sur ce cas et la situation n'a toujours pas évolué.
Non, elle n'a pas évolué aujourd'hui vis-à-vis du club. J'espère pour lui et pour nous que c'est une situation qui évoluera. Je pense que le fait que certains marchés ne soient pas encore fermés, bah, peut-être que tout le monde restait un peu attentif à ce qui pouvait éventuellement se passer. C'est un joueur dont j'apprécie fortement les qualités et il comprend tout à fait la situation du club, donc il n'y a vraiment aucun souci. Il s'entraîne vraiment très bien, il est au service de l'équipe et j'espère pour son bien, pour son futur, qu'on trouvera une solution pour que tout le monde soit content.
Bon, président, ça c'était la solution, c'était la situation, excusez-moi, vendredi.
Avant la fermeture. Avant Toulouse,
on a dit le marché turc s'est terminé vendredi, c'était un petit peu le dernier marché où Étienne Nioutet pouvait éventuellement trouver un point de chute. On est quelques jours plus tard, est-ce que la situation déjà d'Étienne Nioutet, elle a évolué vis-à-vis du HAC?
Elle est en train d'évoluer.
Positivement pour le HAC
Si elle est en train d'évoluer, c'est que ce sera positif et pour Étienne et pour le HAC. Et
donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
Je ne veux pas m'engager là. Effectivement, les propos de Didier datent d'il y a 3 jours,
oui.
3-4 jours. Et puis depuis 3-4 jours, alors oublions la Turquie, tout ça, c'est fermé, c'est fini, le dossier est clos là-dessus. Pour autant, les discussions avec Étienne laissent à penser qu'une issue au mieux des intérêts de tout le monde et en bonne intelligence de sa part, j'insiste, de sa part, doivent nous permettre dans les heures qui viennent d'aboutir.
Le Calais.
Donc on parle d'une éventuelle prolongation pour ce dossier ?
Si ça aboutit positivement, ça ne pourrait être que comme ça, clairement.
Et alors justement, est-ce qu'il y a eu d'autres approches concrètes, d'autres clubs sur Étienne Nioutet, sur les derniers jours du Mercato ou pas ?
Ouais, rien de concret. Vous savez, tout le monde parle à cette période-là. Les agents s'additionnent les uns sur les autres. Je ne parle pas que d'Étienne, hein, d'une manière générale. Hein. C'est un peu n'importe quoi. On se croirait place Gemma Efna. Vous voyez ? C'est pour ceux qui connaissent Marrakech. C'est un peu... C'est une addition d'une addition d'une addition d'interventions diverses, variées, sans qu'elle aboutisse jamais. Quoi. Voilà. Ça n'aboutit que quand les deux clubs, déjà au départ, se parlent entre eux. Quoi. S'il n'y a pas de discussion entre un club et le club éventuel acheteur et le club vendeur, le reste, c'est de la rigolade. C'est du vent.
Imaginons qu'il y ait une issue positive du coup, sur le cas Étienne Nioutet. Ça quand même renforcerait, la direction dans son ensemble, qui avait pris une décision quand même assez forte de dire que si ça ne bougeait pas, il ne jouait pas.
Non, mais je ne le vis pas comme un quelconque renforcement.
C'est un message quand même envoyé au groupe quand même qu'il y a des dirigeants qui...
Oui, non, mais au-delà des messages qui peuvent être envoyés, pas envoyés, il y a, encore une fois... Dans ce genre de cas de figure, il faut être 3. Et quand il n'y a plus le troisième, s'il n'y a plus le club éventuellement acheteur, il faut être 2. Il faut être pour que le joueur et le club avec lequel il est lié sous contrat arrivent à se parler et s'entendre. Voilà. Donc le message, c'est que si nous devions effectivement aboutir, j'insiste. Sur le si. Et encore une fois, ça peut être une histoire de quelques heures. Donc. Si j'avais fait l'émission un peu plus tard dans la journée, je vous aurais peut-être dit autre chose. Mais si nous devions aboutir, c'est une vraie part de responsabilité d'Étienne pour permettre que ça aboutisse. Et notre volonté à nous de le prolonger, ce qui était clair aussi, qui était clair dans mon esprit. Quoi. Il n'était pas question il n'était pas envisageable, qu'il n'était pas question, parce qu'encore une fois, après, on ne peut pas les forcer, je ne peux pas lui tenir la main, le faire signer. Mais je ne voulais même pas envisager un instant qu'au mois de janvier, il puisse aller signer libre n'importe où ailleurs.
Donc, dans ce dossier, les échanges n'ont pas été interrompus malgré la situation.
Jamais. Didier vous l'a dit, Étienne s'est entraîné depuis le début de cette situation normalement, comme s'il devait jouer le week-end qui allait suivre, et plutôt très bien, parce que plusieurs fois on en a parlé avec Didier, que la qualité de son travail était allouée, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, il n'y a jamais eu de rupture du dialogue avec lui.
Qui prend la décision de l'écarter? Parce que c'est collégial, c'est...
D'abord, on ne l'a pas écarté. C'est pas, la notion d'écarter déjà devient une notion presque juridique. Donc, on a considéré...
Pas le mettre dans le groupe, en tout cas.
On a considéré, à un moment, et on le lui a dit, que dès lors que... Alors qu'il était demandeur au départ pour partir, que les agents qu'on a eus, etc., faisaient miroiter déjà auprès de lui des choses extraordinaires, auprès de nous, des choses qui nous faisait plaisir à entendre, hein, mais bon, à partir du moment où le mercato était clos, donc le 30 août, qu'effectivement, à partir du moment où il était toujours là, sa situation changerait. Ça ne veut pas dire écarter, il s'entraînait tous les jours, normalement, sous les ordres de Didier. Voilà, donc qui prend la décision, en dernière analyse, c'est moi qui la prends, qui la valide en tous les cas, qui l'assume. On la prend collégialement, avec Mathieu, avec Didier, mais en dernière analyse, c'est moi qui l'assume.
Si on dépasse le cas d'Étienne Youtet, j'avais une petite réflexion. On a déjà deux, trois fois dit que les droits télé sont en baisse de manière considérable. Les clubs, ils ont deux sources de revenus principales, c'est les droits télé et les ventes des joueurs. Ouais. Donc s'il y en a... L'un fait baisser l'autre, j'ai envie de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai pour le HAC, mais c'est peut-être vrai pour l'ensemble des clubs, est-ce qu'il n'y a pas trop de joueurs sous contrat? Je regardais, alors bien sûr, il y a beaucoup de jeunes chez
vous.
Vous
avez sorti la calculette, Mathieu.
Ouais, ça c'était jusqu'à 32, donc c'était encore dans mes compétences. Mais vous avez 32 joueurs sous contrat aujourd'hui, sans les joueurs prêtés.
Ouais.
Est-ce que, compte tenu des moyens financiers en baisse du football français, est-ce que les clubs, dont le HAC, vont pas devoir faire mener une réflexion?
Si, mais sur les 32, vous avez combien de jeunes en premier contrat pro?
Vous en avez quasiment une dizaine.
Voilà. Donc, en gros. L'effectif qu'on avait envisagé d'avoir cette année, c'était un effectif avec réel, hors gardien, avec 16 joueurs expérimentés et 8,
et 8, jeunes.
8 jeunes. Dans le groupe qui s'entraîne la séquence, plus les deux gardiens ou les trois gardiens. Si les départs qu'on avait envisagés s'étaient réalisés, on y serait exactement aujourd'hui, aux 16 expérimentés et 8 jeunes. On ne va pas s'interdire de signer des jeunes joueurs, au prétexte qu'on veut se limiter à 8. Mais non, on n'a pas, on a un effectif. L'effectif, ça veut dire aussi masse salariale. On a une masse salariale, effectivement, qui est trop élevée au regard des recettes qui vont être les nôtres cette année, mais qui seront aussi les nôtres l'année prochaine, puis encore l'année d'après, et encore l'année d'après. Donc voilà, notre boulot maintenant, c'est réduire cette masse salariale autant que possible. On ne peut pas la réduire d'un coup, d'un exercice à l'autre, d'enlever 40%, 30%, et pourtant c'est ce vers quoi on doit tendre.
Mais quand même l'idée, c'est de, si je comprends bien, c'est, alors bien sûr, faut, avec les impondérables que sont le mercato, les transferts et tout, mais c'est quand même d'essayer de réduire le groupe, si je comprends bien quand même, de travailler avec des
à
groupes
terme,
plus
bien
réduits.
Bien sûr. Encore une fois, un club comme nous qui jouons une fois par semaine, 16 joueurs confirmés et 8 jeunes, c'est le bon équilibre. Voilà.
Et puis d'autant plus que dans ce groupe, il y a certains joueurs qui ne vont pas avoir beaucoup de temps de jeu. Donc là, c'est pareil, ça va être des réflexions, à mon avis, qui vont devoir se poser à vous d'ici la prochaine échéance, le mercato de janvier peut-être.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et il y aura un mercato qui devra être actif en janvier.
Avec d'abord des départs, du coup, si forcément.
Ah bah oui. Non, mais c'est surtout, encore une fois, pour nous, cette année, on est. J'insiste là-dessus, parce que vos auditeurs... enfin, que les choses soient claires vis-à-vis des auditeurs. Mercato, pour nous, ça veut dire départ. Ça ne veut pas dire arrivée.
On parle de mercato, des finances justement, ça nous amène à la troisième partie de ce débrief 100% hack. On va s'éloigner un peu du Havre, direction Paris, les instances de la Ligue de foot professionnelle, la LFP, Vincent Labrune, le président sortant réélu pour 4 ans, très confortablement, 14 voix contre 2 pour Cyril Linette, l'ancien directeur général de l'équipe. Plus de 85% des voix de l'Assemblée Générale, on doit réinventer notre football, c'est ce que disait Labrune en conférence de presse après l'élection. Après, dit-il, avoir entendu les critiques.
Si je les entends pas, c'est, il faut que je change de planète, il y a eu que ça. On a fait des bonnes choses, on a fait des erreurs, et de façon tout à fait factuelle, on a un résultat d'appel d'offres domestique qui est très décevant. On a fait notre autocritique, on a lancé un projet ensemble et on continue et on va le terminer ensemble.
Une réaction sur... sur cette réélection attendue. Hein.
Bouf. Rien à redire sur l'élection, elle est légitime. Elle est légitime dans les scores, en tous les cas. Pour le reste, il a entendu, il dit qu'il entend.
Moi, il va baisser sa rémunération personnelle.
Oui, ça c'est la moindre des choses, ça, là-dessus. Mais enfin, il a juste oublié de préciser le montant de la baisse. Hein.
Il sera peut-être malgré tout... il va garder un salaire supérieur au salaire de base qu'il avait à l'origine.
J'imagine qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il autocritique, il a entendu parce qu'il est sur la même planète que nous tous. Moi, ce que je constate, c'est que depuis plus d'un an, il n'entend pas ce que je lui dis. Et il ne veut pas l'entendre. Donc, et là, je parle spécifiquement de ce dossier CVC. Jamais il n'a envisagé un instant de réparer la connerie qu'ils ont fait. Parce que c'est une immense connerie de pas s'être rendu compte qu'on était passé à travers nous, le hack. Et la plus grosse connerie, c'est encore de concevoir qu'on peut ne pas le réparer, quoi. Et qui nous mène à... moi, j'ai rien à voir avec la commission d'enquête parlementaire. Hein. J'ai rien à voir avec l'enquête préliminaire du PNF.
Parquet national financier.
Oui. Pour autant... je constate au moins, s'agissant de l'enquête préliminaire, c'est que j'ai fait partie des gens qui ont été le premier entendu, à moult détails de questions qui m'ont été posées. Je n'ai pas été entendu par le parquet national financier, pas exclure que ça peut arriver, et que tout ça aurait pu ne pas arriver s'il avait imaginé un instant qu'il pouvait négocier avec nous. Et en plus, la demande qu'on avait n'était pas non plus totalement ubuesque et irrecevable. Hein. Donc, est-ce qu'il a entendu ? Je ne sais pas ce qu'il a entendu.
On rappelle que là, vous touchez moins que si vous étiez resté en Ligue 2.
Oui.
Beaucoup moins.
La moitié. Si on était resté en Ligue 2, on aurait touché le double.
3 millions.
Oui, oui.
Et vous avez touché 1,5 million.
Ouais, sauf qu'on n'est pas en Ligue 2, qu'on est en Ligue 1, qu'on attaque notre deuxième saison en Ligue 1. Encore une fois, on joue contre des clubs qui, eux, ont touché 33. Et d'autres clubs qui, eux, vont bénéficier en plus des droits domestiques minables, des droits télé domestiques qui, eux, sont parfaitement minables, vont en plus bénéficier des droits des ventes du chemin de la France sur le marché international. Il faut bien que les gens comprennent, ça n'a rien à voir avec les droits que verse l'UEFA, là. Je parle des droits télé achetés par les télés américaines, chinoises, je ne sais pas, mexicaines, qui ne sont destinés qu'aux clubs qui ont un indice UEFA. Donc, on ne joue pas dans la même cour, quoi. Chacun joue dans son coin, et nous, on joue dans un tout petit coin.
Ouais, on a l'impression que vous êtes même un peu... J'aimerais dire un président un peu isolé par rapport au reste des autres présidents de Ligue 1, non ?
Oui, oui, voilà, je suis isolé. Par la force des choses, parce que les autres ont cet argent, ils l'ont touché. Hein, donc je ne leur demande pas d'être solidaires avec moi sur nos démarches. Mais oui, isolé, complètement isolé. Ouais, complètement. Voilà, les résultats de l'élection, il fait 85% de validation. À l'Assemblée Générale, le vote est secret par définition, mais je vous laisse imaginer le mien.
On rappelle juste un petit peu, beaucoup de clubs du coup ont touché 33 millions d'euros de la part de CVC.
Ça, c'est ceux qui ont touché le moins.
C'est ceux qui ont touché le moins. Le PSG, c'est 200 millions,
90, Marseille.
90, Marseille et Lyon. Ouais. Voilà. Monaco, Rennes, Lille, c'est 80. Nice aussi. Il y a les clubs qui étaient relégués cette saison-là.
Ouais.
Bordeaux, Metz, Saint-Etienne, qui ont touché 16,5 millions d'euros.
Exact.
Et les clubs qui étaient promus.
16,5 aussi.
Voilà.
Ouais.
En fait, le scénario n'avait pas été anticipé ou pas prévu, bizarrement, qu'un club qui soit relégué l'année A. Enfin, un club qui n'était pas en Ligue 1 l'année A arrive à accéder à cette même Ligue 1 l'année B.
Voilà, on peut aussi imaginer qu'à partir du moment où trois clubs, Metz, Saint-Étienne, Bordeaux, avaient touché 16,5, c'est déjà en soi un budget d'un club de Ligue 2.
C'est même plus que la plupart voilà, des budgets du club de Ligue 2.
Qu'il était peu probable qu'en plus, dans une saison où que deux clubs accédaient directement, que ces deux accessions leur échappent à deux des trois clubs en question. Donc, oui, l'éventualité qu'un autre club qui ne venait pas d'être rétrogradé puisse accéder en Ligue 1 et devienne champion de France, ça a été complètement occulté, clairement.
Et donc vous, votre demande, on est d'accord, c'est de toucher cette part de environ 16 millions d'euros
exactement.
Qui correspond à la part, entre guillemets, du promu
exactement.
En Ligue 1.
Exactement.
Sachant que c'est un feuilleton très long, hein, c'est ça, judiciairement, qu'au tout début.
Voilà, on a perdu en référé, ce qui n'était pas inimaginable, parce que le juge des référés a considéré que la juridiction devant laquelle on était n'était pas la bonne, mais les audiences sur le fond, la première audience sur le fond est à la fin du mois de septembre.
Ça, c'est pour
ça. Ça va être long.
Ça, c'est pour CVC. Je reviens un peu sur les droits télé et puis cette séquence aussi avec Vincent Labrune. Est-ce que vous pensez que le public peut être touché, entre guillemets, par cette séquence et ça paraît très complexe.
Parce que ça fait faire beaucoup de papier, beaucoup de... Je pense que le public s'en fout complètement, y compris de l'identité du président de la Ligue, hein. Je pense que c'est un petit peu l'erreur de Cyril, c'est d'avoir fait une campagne très grand public. Que ce soit Vincent Labrune, Cyril Linette ou le pape, j'en sais rien. Enfin, le grand public se fout complètement de l'identité du président de la Ligue. Hein. Mmh. Le grand public se fout complètement des petits problèmes du hack, à part les supporters à vrai. Hein,
dont un qu'on a vu interpeller d'ailleurs le président réélu
très bien,
sur les réseaux sociaux.
Très intelligemment. Le garçon qui a fait ça l'a très bien fait. Donc, non, je pense que le grand public, pour lui, c'est... Mais c'est normal, en fait, c'est notre cuisine, c'est notre sauce, quoi. C'est un petit milieu, hein, le foot, avec tout ce que comporte le mot milieu, quoi. Mmh. Là, c'est un mot bien adapté à notre univers.
Le public qui se retrouve quand même à devoir payer très cher, lui, pour regarder les matchs.
Oui,
hein, on rappelle, le prix sans la promo de DAZN, c'est... DAZN plus Bein, c'est 55 euros par mois.
Ouais, c'est 30 ou 40 euros en fonction de si on s'abonne, si on s'engage à l'année.
Si vous rajoutez Canal, vous arrivez vite à 100 balles par mois.
Voilà. Ouais, ce qui est voilà.
Impossible.
D'accord.
Mais on espère que DAZN va réussir. Voilà, moi, je ne peux qu'émettre le souhait de les voir réussir. Pour avoir dirigé l'antenne de la version française de Mediapro, je sais à quel point c'est difficile de recruter. Le nombre d'abonnés qu'ils espèrent recruter.
On est sur 1,5 million d'ici 18 mois, c'est ça la clause de revoyure.
Et c'est extrêmement compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Ils peuvent y arriver. Mediapro n'y est pas arrivé. Amazon n'y est pas arrivé. Je leur souhaite vraiment d'y arriver parce que je nous souhaite qu'ils y arrivent, quoi, vraiment.
Vous aviez combien d'abonnés avec Mediapro au max ?
750.
D'accord. Et je crois qu'Amazon au max a fait sur une période 1,8 million, je crois, au max de ce qu'ils ont fait. Mais ils n'étaient pas rentables avec ce chiffre-là.
J'ai jamais eu les chiffres, donc ouais. Je serais incapable de vous les confirmer.
En parlant de chiffres, les premiers qu'on arrive à avoir concernant DAZN ne sont pas très élevés. Enfin, on parle de 250 000, je crois, aux derniers éléments. Donc ça augure pas forcément
de... Vous ne connaissez pas les chiffres. Vous êtes mieux informés que nous, enfin que moi en l'occurrence, ou que les clubs. Je ne connais pas les chiffres. Et c'est un travail de longue, longue haleine. Et encore une fois, l'exemple que je connais le mieux, effectivement, c'est Mediapro, où en plus de la Ligue 1, enfin de 8 matchs de Ligue 1 sur les 10, puis il y avait encore 10 matchs à ce moment-là, on avait la Ligue des Champions, on avait
la Ligue 2,
UEFA, on avait la Ligue 2, et on avait un bundle, ce qu'on appelle un bundle, une offre couplée avec Netflix. Le tout pour 25 euros TTC.
Et ça n'a pas marché.
Je veux dire, on a fait 750 000, donc non, ça n'a pas marché. Mais on le sait, la distribution, si vous n'avez pas Canal Satellite, non seulement Canal, le groupe Canal est essentiel pour le foot en tant qu'opérateur susceptible d'acheter des droits et de les diffuser. Et l'autre partie du groupe Canal, c'est la distribution satellite, alors est plus qu'essentielle. Si vous n'avez pas la distribution satellite,
indispensable.
Bah, ça ne peut pas exister. Quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans le groupe Canal, dans sa composante acheteur de droits diffuseur et dans sa composante distributeur, il n'y a pas de, vous ne pouvez pas survivre.
Est-ce que ce modèle-là des droits TV, comme on le connaît là actuellement, est-ce que ce n'est pas un modèle qui est voué quand même un peu à disparaître ?
C'est un modèle compliqué avec le piratage, c'est clair. Alors l'argument de la Ligue, oui, mais tous les pays ont baissé. Non, c'est faux. Oui, ils ont baissé à la marge. Quoi. Que dalle.
Le piratage, c'est comme voler le sac d'une vieille dame sur un marché. C'est ce qu'a dit Vincent Labrune dans
sa conférence.
Oui,
non, mais le piratage, c'est un souci, mais qui n'est pas nouveau. Ça fait des années que c'est un souci. Hein. Et ce n'est pas la Ligue qui pourra le gérer tout seul et avec la meilleure volonté du monde. Et ce n'est pas les présidents des clubs. J'ai entendu certains présidents de clubs dire maintenant, on va monter au feu sur le piratage. Bon. Le problème, c'est que les mecs qui volent les sacs des vieilles dames sur les marchés, c'est les flics qui les arrêtent. Quoi. C'est pas les passants, c'est pas des chevaliers blancs qui, d'un seul coup, ont décidé qu'ils allaient s'attaquer aux voleurs de sacs de vieilles dames. Donc, oui, il y a des organismes qui sont dédiés à ça. Il y a des mesures qui existent, il faut les appliquer, parce que le piratage est un souci majeur. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, est-ce que les droits télé ont vocation, en France en tous les cas, à revenir à un niveau où ils étaient antérieurement ? Là, je suis assez sceptique.
Donc l'alternative, est-ce qu'on pourrait imaginer, au même titre ce qu'a fait l'industrie de la musique, voire de la télévision, une plateforme unique où on pourrait retrouver un maximum de contenu et qu'on piocherait un petit peu
Dans un monde merveilleux, ouais. Dans un monde merveilleux.
Vous n'y croyez pas trop, quoi.
Si, je pense qu'il n'y aura pas trop d'autres alternatives. Mais ce schéma-là est très très loin du schéma que la Ligue nous avait présenté, de la création de la chaîne de la Ligue, puisque c'était une alternative où ils envisageaient, adossés à Warner Bros, de créer une chaîne. Là, on était sur le vieux monde, pas le modèle que vous évoquez des plateformes musique qui, elles, ont su
se réinventer face à une crise qui les a frappés.
Réinventer l'industrie de la musique. C'est évident que pour le foot en France, je parle en France, ça c'est une étape probablement incontournable.
Mais qui prendra du temps ou beaucoup de temps.
Oui, qui prendra du temps. Et des risques. Donc jusqu'à quel moment les clubs sont prêts à imaginer voir les droits qu'ils perçoivent, les faibles droits qu'ils perçoivent aujourd'hui baisser encore un peu plus pendant que se mettra en place cette nouvelle industrie, je suis incapable de vous répondre.
Ouais, parce que pendant ce temps-là, vous, le problème, c'est que cette enveloppe justement des droits TV, elle se répercute sur votre budget. Là, je ne sais pas combien vous pouvez nous dire concrètement la baisse du montant des droits TV.
40%, c'est simple, les droits télé à classement égal, 15e comme l'année dernière, on va toucher 9 millions d'euros de moins. On avait touché 15 millions, on en touchera 6 cette année.
Ce qui a des conséquences
majeures. Hein, majeures. Les droits télé représentent pas loin de 60% de notre budget global. Donc imaginez ce que représente une baisse de 9 millions sur 15. Je vous laisse faire le calcul. C'est considérable. Considérable.
Est-ce qu'on parle de cette plateforme ? Alors, on ne le souhaite absolument pas. Mais imaginons que l'aventure d'Azone s'arrête prématurément. Ouais. Est-ce qu'un nouvel échec d'un opérateur, on va dire, télé de distribution, pourrait être un déclic en disant il faut qu'on fasse différemment parce que modèle-là n'est plus viable.
Je pense qu'à un moment, au cours déjà des... Parce qu'il y a une clause de revoyure avec d'Azone dans un an et demi, hein, d'ici la fin de la saison prochaine, c'est-à-dire pour la période 26-27. Mais ça sera anticipé, évidemment, en fonction des scores réalisés cette saison-ci, et très probablement, voilà, enfin, moi, j'attendrai les fêtes de fin d'année, toutes les opérations de promotion, janvier, et puis à partir de février, je ferai le point de où est-ce que vous en êtes et comment on voit la suite. Mais c'est pas moi qui m'occupe pas de ça, donc je les regarde faire. Mais oui, il faudra l'anticiper, bien sûr.
En tout cas, pour le prochain match, ce sera dimanche à 15h. Je ne sais pas sur quelle chaîne.
Sur DAZN.
Avant de vous quitter, Jean-Michel Roussier, je voudrais vous faire dire un dernier mot, peut-être sur la section féminine. Coup d'envoi du championnat
samedi.
Ce week-end face au FC Nantes avec un nouveau coach. Voilà, comment vous percevez cette saison
Laure a souffert également des incidences économiques qu'on lui a imposées pour la refonte de son équipe. Ça a été compliqué l'intersaison parce que là aussi le marché était un marché, même si on je ne veux pas comparer hein, le marché du football masculin et du football féminin, ni les salaires. Et que c'est vrai que la baisse qu'il fallait mettre en œuvre, elle touche tout le monde, elle touche évidemment aussi la section féminine, pardon, même si, encore une fois, on est sur des montants qui n'ont rien à voir. Alors, il fait avec beaucoup de joueurs qui ont été blessés la saison dernière, qui vont mettre du temps à revenir. Avec une gardienne de but qui est devenue maman il y a quelques semaines.
Laetitia Philippe, on a là.
L'objectif, ce sera le maintien, il n'y a aucun problème. Je pense que là, elle a un effectif pour l'obtenir. On est pressé que les joueuses qui sont aujourd'hui en salle d'attente kiné, réathlétisation, etc., reviennent vite. Voilà.
Donc on précise que c'est Maxime Di Liberto, du coup, le nouveau coach,
qui était
le responsable des 19 précédemment. Exactement. Et il y a des blessés, mais il y a aussi beaucoup de jeunes joueuses, de très jeunes joueuses, mais de très bonnes joueuses.
Oui, et puis il y a surtout l'ouverture et la création d'un centre de formation féminine. Donc qui a donné beaucoup de boulot parce qu'il fallait arriver à mutualiser les garçons et les filles. Tout ça dans le cadre d'un cahier des charges de la fédération qui est très complexe, avec les travaux à la CAV, tout s'est additionné. Il y a ce centre de formation, il y a l'équipe première, et qui est effectivement un Maxime comme coach maintenant.
Et on verra ce que ça donne ce week-end. Merci beaucoup en tout cas, Jean-Michel Roussier, d'avoir été à
C'est
nos côtés pour inaugurer ce débrief 100% à. Quant à vous messieurs, on se retrouvera mardi 1er octobre. Et d'ici là, on peut évidemment lire toute l'actu du foot régional sur footnormand.fr et le sport local également dans son ensemble, dans le cahier week-end du Courrier Cauchois. Fin de partie, merci beaucoup et à très bientôt sur Tendance Ouest.